C'est 23.
Un balado, c'est 23. Produit par le 98.5.
Ça tient la route. Le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charest.
Salut à tous! On a eu notre première neige cette semaine.
C'est l'hiver!
J'espère qu'il va juste en avoir assez pour faire du ski de fond. Hein? C'est mon sport de prédilection l'hiver. Alain Mécana, salut!
Bonjour Benoît.
Alors bienvenue à Ça tient la route. Cette semaine, encore une assez grosse émission. Là, il faudrait une émission complète d'essais routiers. Là, j'ai une semaine dont j'ai pas parlé de la semaine passée. J'en ai deux autres cette semaine. Je pense pas qu'on aura le temps de faire le tour. Je vais en parler vite.
T'as beaucoup de voitures.
Mais j'ai finalement la Porsche Taycan entre les mains. Ça a été long. J'ai attendu très longtemps.
Ça vaut-tu la peine?
Ah! Oui, mais c'est 200.
Oui, non, c'est effectivement.
Oui. Le seul problème est là. Puis j'ai la Maserati Levante, de laquelle je m'attendais pas à grand-chose, pour être honnête, mais qui va mieux que je pensais. Mais ça aussi, 170 000 $. Alors, c'est pas des voitures. Donc, on sera plus modeste dans notre essai routier cette semaine. On va parler de la Mini GP. Pour ceux qui restent au Canada, parce qu'il y en a pas beaucoup.
Ouais.
Alain, tu vas nous parler de quoi, toi, en essai routier?
Je suis allé dans les classiques, je veux dire classique façon de parler, une Volkswagen Passat.
Ah, c'est assez classique, ça.
Je me disais, tu sais, on va revenir aux valeurs sûres.
Oui, oui, absolument.
On va en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est encore une valeur sûre?
Ben là, ça sera ça la question. Mm-hmm. Et on va avoir comme invité cette semaine Sarah Hood, en fait, qui est PDG de Propulsion Québec.
Oui.
Qui va nous parler, en fait, Propulsion Québec, c'est une grappe de transport électrique et intelligent qui veut faire avancer la cause, disons ça comme ça.
Exact.
Et elle va nous parler un peu, bon, de ce que c'est, des objectifs, la mission, à notre entrevue tantôt. Mais évidemment, comme à l'habitude, on va commencer avec nos actualités. Qu'est-ce que t'as au menu cette année, cette semaine, Alain? Hein?
Un mot sur deux.
Oui.
Écoute, on va parler de Volvo d'une façon spéciale. Tu sais, tout le monde connaît Netflix, service de vidéo à volonté par abonnement. Il y a certains fabricants d'automobiles qui ont essayé la même chose avec les automobiles, avec les voitures neuves.
Donc, et t'as même des concessionnaires qui ont fait ça.
Exactement.
Le groupe Albi, entre autres, pour en nommer un.
Bon, ben voilà. Donc, on a un montant X par mois, qui est quand même assez élevé, et on a une espèce de, je vais pas dire un buffet à volonté d'automobile, mais on a quand même plus de latitude sur ce qu'on peut faire en termes de véhicule
exact.
Pour changer de voiture dans le temps. Et ça comprend aussi, il n'y a pas de casse-tête. Ça comprend l'entretien, l'assurance, tout la
patente. Alors, t'as rien, là.
Exactement.
C'est un service hors. Évidemment, plus le montant est haut, plus tu vas jouer dans des catégories de véhicules qui commencent à t'intéresser.
Exactement. Chez Volvo, ça s'appelle Care by Volvo. C'est offert dans une quarantaine d'États aux États-Unis. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est offert. Et il y a, entre autres, la Californie qui critiquait l'offre de Volvo parce que ça ressemblait beaucoup à une location à long terme. Normal.
Un peu déguisé, ouais.
Ouais. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de bail, donc c'est pas vraiment clair à ce niveau-là. Ils ont revu leur offre, donc ça s'appelle maintenant Care by Volvo 2.0.
Mm-hmm.
Et ça offre, écoute, ça coûte entre 650 et 750 $ par mois, donc c'est aux alentours de 1000 $ canadiens, si on veut. Ça comprend, bon, évidemment, le véhicule de votre choix entre les trois VUS, le XC40, le XC60 et le XC90, que vous pouvez échanger à tous les 4 mois. Sans question, sans poser de questions. Ça comprend l'assurance, l'entretien, les réparations causées par l'usure légèrement excessive. Donc, c'est un petit peu plus que de l'usure normale, mais là, ça reste assez vague pour laisser du jeu excessif, tu sais. Et un kilométrage maximal de 2000 km par mois pour se déplacer. Écoute, c'est juste si ça comprend pas l'essence, ce qui sera encore plus magique. Ils ont changé leur pratique. Ce qui est intéressant, il y a deux choses, en fait. La première, c'est comme c'est offert par Volvo directement sur leur site web, c'est presque de l'achat en ligne.
Et mais ça, ce n'est pas de l'achat en ligne encore, mais on s'en approche.
Mais évidemment, ça agace certains concessionnaires du groupe aux États-Unis. Puis, bon, en contrepartie, comme ils ont revu leur formule pour un peu leur faire plaisir, ils ont offert la possibilité à ces concessionnaires-là d'offrir leur véhicule dans leur programme. Donc, les gens qui s'abonnent vont chercher leur véhicule chez le concessionnaire plutôt que de l'avoir directement livré par Volvo, ce qui apaise un peu les gens fâchés.
Tu sais, Alain, qu'il y a beaucoup de pression en ce moment pour que l'achat en ligne devienne une réalité.
Ben c'est normal.
On sent que le système craque là, d'un peu partout.
Oui,
on...
tout le mouvement vers le numérique a été amorcé partout ailleurs et Tesla le fait déjà. Donc, beaucoup de gens vont comme, ben là, si ça marche, pourquoi? Tu sais, ça marche pas pour tout le monde.
Bon. Puis Tesla, on fait la preuve qu'on est capable de le faire. Là. Ils en vendent assez d'auto. Là.
Puis dans le cas de Care by Volvo 2.0, l'autre facteur intéressant, c'est que chez Volvo USA, ce qu'on dit, c'est que c'est déjà profitable. Donc, ce n'est pas un truc qu'ils font. Ce n'est plus un test fait à perte pour voir si ça marche. Il y a une demande et elle leur permet de de faire des profits. Donc, c'est assez. Ça va arriver au Canada plus massivement, c'est sûr, dans les prochains mois.
Donc, c'est pas encore au Canada.
Ce n'est pas encore au Canada. Okay. Ça reste. BMW aussi a son programme en essai. Nissan a un programme en essai. Oui. Tout ça aux États-Unis ou en Europe, je pense, dans le cas de certains fabricants européens. Mais écoute, ça s'en vient.
Et autre nouvelle, on retrouve des véhicules électriques des fois dans des endroits où on s'en attend le moins.
Écoute, ceux-là, ils vont être spectaculaires.
Parce que là, c'est des camions dans des mines québécoises qui sont maintenant électrifiés. Parce qu'on le sait, les mines, surtout les mines, bon, les mines à ciel ouvert, c'est une autre affaire.
Exactement.
Mais les mines fermées, des véhicules à combustion interne, c'est un gros problème.
Oui.
Parce que là, t'es dans un endroit clos, qui a pas d'air, puis t'arrives là, toi, avec de la combustion,
diesel, ouais.
Des trucs diesel, où tu vas étouffer tout le monde. Donc, l'électricité fait beaucoup de sens dans ces endroits-là.
Et dans ce cas-ci, en plus, c'est pour une mine à ciel ouvert, parce que un des partenaires, c'est Nouveau Monde Graphite, qui a une mine à ciel ouvert, où vont être essayés les premiers exemplaires de ce qui pourrait devenir, dans le fond, des camions lourds pour l'industrie minière spécialisée, mais avec un groupe propulseur électrique.
Okay.
C'est un paquet d'entreprises québécoises qui se sont regroupées autour de l'Institut du véhicule innovant pour développer le système, donc la mécanique, qui permettrait à ces véhicules-là de se promener de façon purement électrique. Il y a TM4, le fameux fabricant de moteurs qu'on connaît bien.
Bien oui.
Il y a Dana, qui est un groupe américain qui est partenaire avec Hydro-Québec et TM4 dans cette espèce de petit monde-là.
Dana font des transmissions, entre autres.
Ils font des composants. Puis ils sont très agressifs, pour le dire à l'anglaise, dans l'électrification. Ils veulent vraiment être un gros joueur, un peu comme Magna, ici au Canada, fait. Dans le même principe. Et il va y avoir aussi développement d'une batterie et de l'infrastructure de recharge pour des camions qui font... comme tu disais, c'est un bâtiment à trois étages quasiment en termes de dimension.
Dans les mines, moi j'ai de la famille qui est à Asbestos, qui s'appelle maintenant Val des Sources. Hein? On a changé
joli,
le nom.
C'est
beaucoup plus joli. ça embellit pas le village, mais au moins... J'ai très jeune, j'avais vu les fameux camions qui sortent l'amiante des mines. C'est pas gros, c'est gigantesque.
Donc, demande une certaine mécanique, on s'entend. L'objectif est de créer une pile, surtout là, la pile, qui va être robuste, peu dispendieuse et qui va fonctionner 4 saisons. Ça, c'est un détail assez important parce que pour être rentable ou pour atteindre les objectifs visés par cette technologie-là, il faut que ça marche 4 saisons.
Absolument. Puis, tu as des chiffres assez intéressants ici. Là.
Ça va être bâti autour d'un camion Western Star 6900 XD d'une capacité de chargement de 40 tonnes. Donc, c'est pas exactement un jouet télécommandé.
Non. C'est un gros jouet Tonka, ça. Là.
Et ce qui est intéressant, parce que ça s'en vient vite, on devrait voir ça sur les routes non pavées du Grand Nord québécois, je sais pas comment, les sentiers miniers, en tout cas, au printemps 2022.
OK, c'est quand même rapide, puis on dit que ça éviterait de consommer quelques 80 000 litres de diesel par an.
Petite affaire de rien du tout.
Donc, on sauve aussi pour l'environnement, ce qui n'est pas une mauvaise chose au passage.
C'est une station d'essence au complet. Là.
Et là, on reste dans l'électrique, parce que là, c'est au tour de RAM d'annoncer qu'on va finalement avoir un RAM électrique.
Attends.
Parce qu'on le sait, il y a quelques mois, il y avait eu de l'hésitation. On avait parlé, parce qu'on le sait, là, Ford avait annoncé un 150.
Mais RAM, c'était hors de question, non?
Ben, en fait... Mike Manley, qui est le grand patron de FCA, avait un peu balbutié quand il a répondu. Et on comprenait par son balbutiement qu'il n'y avait pas vraiment de très grands projets qui étaient en cours à ce chapitre-là. Bon, puis on le sait, des trois grands Américains, ou ce qui reste d'Américains de FCA, c'est eux autres qui sont le plus loin. Là. Il y a un véhicule hybride qui existe, qui est le Pacifica, et c'est tout. Alors que GM a ses propres batteries Ultium, Ford a pris des parts importantes dans Rivian pour avoir la technologie qui va probablement être utilisée dans le F-150, là, parce qu'au montant qu'ils ont dépensé, je l'utiliserais, moi, là.
Ça serait une bonne idée de combiner
les
deux.
Et là, ben, on se doute probablement que FCA, qui est en négociation avec PSA, hein, les négociations sont très avancées en Europe, c'est le groupe Peugeot.
Qui va s'appeler Stellantis.
Là, c'est pratiquement réglé, là. Il reste certains détails de légaux.
Mm-hmm.
Mais, du côté de FCA, on a de la technologie électrique. Alors, est-ce qu'on a travaillé dans la boîte à outils de son nouveau partenaire pour aller chercher du matériel pour faire un camion électrique? Il y a fort à parier que oui.
C'est que initialement, il y avait la rumeur que ça allait être Nicolas qui fait le fameux oui. le projet que finalement GM est allé chercher et ils doivent se mordre les doigts aujourd'hui, mais initialement, ils pensaient peut-être aller chercher la technologie là, donc ils ont commencé à devoir se revirer rapidement.
Alors là, évidemment, je prends de l'avance en disant que ça vient de PSA là, mais PSA a cette technologie là. Alors, oui, c'est un nouveau partenaire, un peu comme Mercedes va fournir l'électricité pour les moteurs Aston Martin. Voilà. Alors les compagnies qui n'ont pas les sous pour développer, parce que ça coûte des milliards de dollars, là, pas un ou deux. On parle de 7, 8 des compagnies allemandes. Là, on parle de 20 milliards, de 25 milliards qu'on va investir. Alors, si on n'a pas ces sous-là puis qu'on va être dans la parade, ben il faut aller regarder ailleurs. Alors, j'ai bien hâte de voir, mais que les amateurs de RAM ne se découragent pas, il y aura un RAM électrique.
Ça s'en vient.
Autre nouvelle un peu plus terre-à-terre, disons-le comme ça, un rappel massif de Jetta. Alors, pour tous ceux qui écoutent, qui sont propriétaires de Jetta, on a rappelé pour l'Amérique du Nord 251 606 Jetta. De ce nombre-là, il y en a à peu près 33 300 qui sont au Canada. En fait, c'est un boulon qui maintient certains conduits à haute pression qui peuvent se desserrer avec le temps. Ça touche les modèles 2016 à 2018, donc c'est pas très vieux. Et la conséquence de ce desserrement de boulon, ben ça peut être une fuite de carburant. Hein, c'est pas trop agréable. Pas alors, au prix de l'essence, même s'il est pas très cher, on n'aime pas en perdre. C'est surtout que ça peut causer un risque d'incendie. C'est surtout ça le danger, parce que si on touche à des endroits qui sont chauds près du moteur, ça risque de faire de la flamme. Alors, il y a pas... Volkswagen est assez candide dans le communiqué. On dit le constructeur allemand n'a pas encore trouvé de solution pour résoudre le problème.
Serrer le boulon, non? C'est pas une option, ça.
Mais il travaille à remédier la situation. Alors, on va commencer à informer les propriétaires au mois de décembre. Alors, ça s'en vient. Les moteurs visés sont les 1,4 litres. Qui ont été assemblés entre le 18 juin 2015 et le 9 décembre 2017.
En tout cas, ils connaissent l'étendue du problème assez précisément.
Ben, en fait, la beauté des numéros de série, de tout ce qu'on trouve sur les autos, c'est exactement pour des cas comme ça. Parce que là, on est capable de dire, ah, cette vis-là vient de tel fournisseur qui nous a envoyé des vis de telle année à telle année. Et là, il faut reculer. Retrouver les modèles. Et là, on est capable d'envoyer, selon le numéro de série, une lettre au concessionnaire qui, lui, va rejoindre les clients. Bon, les modèles sont encore relativement récents, mais quand on tombe avec des vieux modèles, retracer le propriétaire peut être joyeux casse-tête, parce que si le modèle a 10, 12, 15 ans...
Il a changé de propriétaire.
C'est ça. Mm-hmm. Puis peut-être qu'il est même plus sur la route. Mais là, c'est un modèle suffisamment récent. Donc, en décembre, si vous êtes visé, vous allez avoir des nouvelles. Souvent, c'est par lettre ou par courriel de votre concessionnaire. Alors voilà, c'était notre petit bloc nouvelle de cette semaine. On va à la pause et on revient avec notre invitée, Mme Sarah Audin.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Vous êtes de retour à l'émission Ça tient la route. Je vous rappelle que si vous voulez écouter en ligne, c'est un balado qui est diffusé sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple, Google. Vous pouvez aussi aller sur le site du 98.5 FM dans la section balado. Et si vous avez des questions, on en prend quand on a le temps. On manque de temps.
Faudra
allonger l'émission. On est toujours à court de temps à la fin. Mais vous pouvez le faire à l'adresse balado avec un S à 98.5fm.ca. Voilà, le message est passé. C'est maintenant notre bloc invité. Et on a avec nous ce matin Mme Sarah Hood, qui est PDG de Propulsion Québec. Bonjour, Mme Hood.
Bonjour, M. Charrette.
Ben, bienvenue à l'émission. Pour les gens qui écoutent, Propulsion Québec, parlez-nous un peu de vous. Qui est Propulsion Québec?
Propulsion Québec, c'est une organisation qui existe depuis maintenant 3 ans, qui a été créée à l'initiative du gouvernement du Québec, mais qui est soutenue par tous les paliers du gouvernement et par l'industrie du transport électrique et intelligent au Québec, donc les entreprises, les compagnies qui offrent des produits ou des services dans les secteurs des véhicules électriques, des infrastructures de recharge, des véhicules intelligents, des infrastructures intelligentes et toutes les compagnies qui offrent des services qu'on dit la nouvelle économie en mobilité. Donc, pensez autopartage, vélo partage, covoiturage, application.
OK, donc c'est transport avec un grand T, là. C'est pas seulement l'automobile, mais tout ce qui peut avoir moteur électrique ou transport intelligent est inclus dans tout ça, là.
Exactement.
Okay.
En fait, c'est pas vraiment les automobiles parce qu'on n'en fait pas d'automobiles au Québec. Mmh.
Non, effectivement.
On n'en assemble pas. On fait tout autre type de véhicules, par exemple. Donc, nous, on se plaît à dire que les véhicules qu'on fait au Québec, c'est dans le spectre entre la trottinette électrique et le train électrique. Et donc, tout ce que vous pouvez imaginer entre les deux, des autobus, des camions, des balais de rue électriques, des camions d'ordures électriques, des véhicules récréatifs électriques. Pensez là vraiment tant transport personnel que transport collectif que transport de marchandises électrique et intelligent. Donc voilà.
Oui, c'est vrai. Ben, on parlait, c'est drôle, parce que cette semaine, il y a eu ta question de la compagnie électrique Lyon, là, qui songe à aller en bourse, qui fait des autobus et qui fait des camions commerciaux électriques et qui commence à commercialiser bientôt. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait au Québec à ce moment-là.
Absolument. La compagnie électrique Lyon, c'est un assembleur de véhicules électriques. Ils font des autobus scolaires électriques, mais ils font aussi des autobus de transit, des autobus de transport collectif électrique, des camions électriques pour le transport des marchandises, des camions spécialisés. Ils vont commercialiser des camions nacelles électriques, des ambulances électriques, comme je vous disais, des camions pour ramasser des ordures électriques. Donc, ce sont des assembleurs de véhicules, mais pensez que la compagnie électrique Lyon s'approvisionne chez une foule de fournisseurs au Québec. Donc, font vivre là, toute une chaîne d'approvisionnement.
OK.
Et donc, on couvre là, chez Propulsion Québec l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement-là, juste même qu'aux minières qui fournissent les minerais pour les batteries.
Bon.
Donc, on est aussi beaucoup là-dedans, là, toute la stratégie batterie, le développement là, de cette filière-là au Québec.
Là, en 3 ans, pour donner une idée un peu de la progression de la compagnie, vous aviez combien de membres au début? Vous en avez combien aujourd'hui? Puis, c'est quoi vos objectifs?
Oui. Bon, alors, ben, premièrement, il y a 3 ans, on en avait 0.
Oui, non, mais au début, il y a dû avoir quelques gens qui ont adhéré assez rapidement là, dans la première année.
Oui, on avait évidemment un conseil d'administration qu'on a tout de suite mis sur pied, qui était formé de 21 entreprises ou organismes dans notre écosystème, là, donc les plus actifs, les premiers adhérents. On est rendu à 180 membres.
Ah bon, OK.
Donc, on a connu une bonne croissance là, en 3 ans, puis ça continue de grandir. Parce que l'industrie, c'est une industrie émergente au Québec. Hein. On sait qu'on a une longue tradition en transport. On a inventé ici au Québec plein de moyens de transport. On a l'hydroélectricité avec Hydro-Québec depuis 75 ans. Donc, on a vraiment développé une expertise en électrification et en transport. Donc, c'est pas une surprise si finalement on est vraiment un leader mondial en électrification des transports et que cette industrie-là qui est émergente partout dans le monde, qui est vraiment en train de sortir de la marge et de devenir la norme. Donc, c'est pas une surprise si vraiment cette industrie-là connaît une croissance au Québec. On a vraiment tous les paliers de gouvernement sont derrière nous. Tout le monde y croit. Je pense que la population aussi voit vraiment là une belle opportunité de faire croître un secteur économique qui en plus a des retombées sur l'environnement. Donc, il y a vraiment des gains à tous égards. Donc, vraiment, notre mission, pour revenir à votre question, c'est vraiment de faire croître l'industrie. Donc, d'identifier là, c'est quoi les freins à la croissance de notre industrie, puis de travailler de façon préventive, d'attacher tous les fils en arrière pour que notre industrie elle connaisse une croissance la plus fulgurante possible, qu'elle emploie plus de monde au Québec, qu'elle contribue encore davantage au PIB du Québec, à l'économie du Québec. Donc, c'est vraiment pas notre mission.
Quand on pense industrie automobile au Canada, évidemment, on pense au sud de l'Ontario. Il y a eu des annonces, d'ailleurs, dans les dernières semaines d'investissements de la part de Ford, de la part de Chrysler et des gouvernements fédéraux et provinciaux, le gouvernement de l'Ontario, pour faire un petit peu virage électrique dans l'industrie automobile canadienne. Bon, traditionnellement, on opposait un peu le secteur québécois au reste de l'industrie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la filière automobile québécoise ou la filière de transport québécoise, ce qui se passe en Ontario en ce moment?
Absolument. C'est une excellente nouvelle que le gouvernement fédéral joue un rôle de leadership dans l'électrification de l'industrie automobile canadienne.
Il n'y a pas de chance qu'ils aient privilégié des entreprises ontariennes ou des entreprises plus dans le géographiquement situées là où se passe l'action en ce moment?
Ben, en fait, évidemment, on n'en fait pas d'auto au Québec. Donc, ils ne peuvent pas privilégier l'un que l'autre, mais ils peuvent, par contre, s'assurer que ça ait des retombées positives sur 2 provinces canadiennes. C'est-à-dire qu'en appuyant l'électrification de l'industrie automobile ontarienne et en appuyant le développement d'une filière batterie au Québec, on peut rêver à produire des batteries au Québec et profiter de notre proximité avec l'industrie automobile ontarienne et du Michigan pour pouvoir vraiment créer un pôle de production de batteries nord-américaines au Québec, que le Québec soit le fournisseur de batteries de l'Amérique du Nord. On peut vraiment, vraiment y rêver. Et je dirais que, par contre, pour quand même répondre à votre question, M. Bécanan, je pense que c'est important que le gouvernement fédéral investisse également dans l'industrie des transports électriques au Québec en soutenant l'électrification de tous les moyens de transport au Québec. Donc, il y a encore une industrie. Ce qu'ils font en Ontario en appuyant l'électrification de l'industrie automobile qui était une industrie à essence, mais ça existe aussi au Québec. Hein. Il y a une industrie du transport à essence au Québec et ils doivent être accompagnés pour faire la transition dans l'électrification. C'est l'avenir, là. Ça, c'est indéniable.
Ouais.
Il faut qu'il y ait une grande transformation de cette industrie-là pour pouvoir suivre l'évolution du marché et ne pas se retrouver avec des produits désuets dans quelques années. Il faut que le Québec ait sa part, sa juste part dans l'investissement du fédéral en électrification des transports au Canada. Ça, c'est absolument clair. Mais il y a vraiment moyen de s'assurer que les investissements qui sont faits en Ontario bénéficient aussi au Québec en appuyant tout le développement de la filière batterie.
Bon, Mme Aubed, expliquez-moi certains projets que vous avez en ce moment pour donner un peu plus concrètement aux gens une idée sur quoi vous travaillez avec cette grappe industrielle autour de vous.
Oui. Bon, alors, on a à la fois des projets très concrets de développement, de coordination de projets, de nouveaux prototypes de véhicules électriques. On a annoncé hier en compagnie des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que notre partenaire, l'Institut du véhicule innovant de Saint-Jérôme, le prototypage d'un nouveau camion de 40 tonnes.
On en parlait tout à l'heure.
C'était dans nos nouvelles tantôt. Donc, ça vient de chez vous, ça, voilà.
Exactement.
Oui, 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 OK.
Donc, ça, c'est une grande avancée pour l'électrification des transports parce que, évidemment, c'est plus facile d'électrifier une petite voiture que d'électrifier un immense camion. Pour l'industrie minière qui doit monter, gravir des pentes abruptes chargées de minerais. Donc, c'est comme d'amener
le concept
à un autre niveau. Exactement. Un grand défi d'ingénierie, mais au Québec, on a tout ce qu'il faut pour le relever. Donc, on est là-dessus. Mais on travaille à d'autres projets là, de type plus accompagner nos membres sur des marchés internationaux, organiser des événements avec des acheteurs publics qui viennent par exemple des États-Unis. On a organisé la semaine dernière notre événement Impulsion Montréal qui vise à inviter des acheteurs de publics des grandes villes nord-américaines. La semaine dernière, on avait l'acheteur de la ville de New York, la ville de Philadelphie, la ville de Sacramento, Denver, Chicago. Donc, par exemple, la ville de New York a 31 000 véhicules dans sa flotte et 11 000 autobus scolaires et vise, ils ont adopté un décret pour électrifier à 100% toute cette flotte dans les prochaines années. Donc, ils lancent beaucoup d'appels d'offres pour acheter des véhicules électriques. Donc, évidemment, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour les entreprises aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, c'est important.
En fait, vous assurez, en fin de compte, d'être à l'affût de ce qui bouge, de ce qui se passe et d'être certain que vous êtes en mesure de répondre soit à des offres, à des demandes ou à faire des propositions.
Exactement. En fait, on aide les compagnies québécoises soit à créer les produits toujours plus innovants parce qu'on sait que c'est une course mondiale pour inventer les véhicules électriques les plus performants, les véhicules autonomes, etc. Donc, on les aide soit à rester vraiment à l'affût en termes de recherche et développement ou à vendre de leurs produits actuellement. Donc, on est vraiment là, sur tous les fronts. On travaille même en main-d'œuvre à appuyer là, la recherche de candidats parce que tous nos membres vivent, comme dans plusieurs secteurs, là, des difficultés à recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, ça aussi, ça peut être un frein à la croissance. Donc, on est vraiment là sur, on essaie d'être vraiment proactif là, sur l'ensemble des obstacles à la croissance de notre industrie.
Ben, écoutez, c'est très intéressant, Madame Aubed. Merci pour votre temps. Et je pense que les gens connaissent un peu mieux Propulsion Québec maintenant. Et quand il y aura des beaux projets, tenez-nous au courant. On va en parler.
Avec plaisir.
Alors, merci beaucoup. C'était Mme Sarah Houde, qui est PDG de Propulsion Québec, qui nous parlait un peu de l'organisme et de ses objectifs. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est déjà le dernier bloc de l'émission. Alors, c'est le bloc des essais routiers. Je le disais en début d'émission, grosse semaine. Mm-hmm. On va en parler un peu plus la semaine prochaine parce que je suis déjà en retard sur la semaine dernière.
Alors, seulement, tu pouvais publier tout ça dans un livre.
Ben oui, comme l'annuel de l'automobile. Merci de me rappeler. Je me fais pas assez d'autopromotion. Ben oui, l'annuel de l'automobile qui est... D'ailleurs, on va même avoir un site web là qui est sur le bord, là, on est à finir les derniers détails annuelauto.ca. En fait, probablement au moment où vous allez écouter le balado, ça va être prêt. Donc, on est à commencer ça. Vous allez retrouver, ma foi, tout ce qu'on a fait dans l'annuel de l'automobile depuis 2004. On va avoir aussi en ligne tout le contenu des livres annuels de l'occasion, voitures d'occasion en 2012 et 2018. Et on est à travailler une section de voitures classiques. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de matériel. Écoutez, j'ai préparé 9500 textes pendant la pandémie. Là.
Des bonnes archives.
Les journées étaient longues. Il va y avoir de très bonnes archives. Évidemment, section actualité, section conseil, comparatif. Écoutez, il va y avoir énormément de matériel. Ça a pris 6 mois et vous pouvez même, sur la boutique en ligne, acheter des annuels d'automobile, même les anciennes versions. Pour compléter la collection, ceux qui les ont pas. Puis vous pouvez acheter le 2021 qui est en magasin. Ça va bien, merci, hein, les gens qui l'ont acheté. Là, j'avoue que cette année, c'était un grand coup de dé parce qu'avec la pandémie, t'as pas sûr si les magasins allaient être ouverts, fermés. Oui.
Ben, les libraires sont contents, les gens lisent. Donc,
En fait, j'avoue que dans le secteur du livre, les ventes sont en hausse parce que les gens sont à la maison, doivent faire des activités, plusieurs lisent. Mais j'avoue que quand on a commencé le projet en avril, là, tu te dis « Ouh, ça va avoir l'air de quoi cet automne? » Parce que là, tout était fermé en avril. Alors, exact. Ça a vraiment voulu lancer les dés puis dire « Bon, on va souhaiter que ça va réouvrir à un moment donné. » Et heureusement, ça a réouvert. Et ça va bien. Alors, merci. Merci de m'en parler. J'oublie trop souvent de le faire.
C'est pour ça.
Alors, essai routier, évidemment, on parle de ton côté. Tu disais d'un classique, je pense que oui. Passat, c'est à peu près aussi classique qu'on peut trouver.
Ouais.
D'abord, parle-nous du modèle. Il est pas neuf, on s'entend.
C'est
là.
Pas la plus récente.
C'est pas la plus récente
dans le marché, effectivement.
Puis c'est dans un segment de marché qui était en diminution constante depuis quelques années. Là, on s'entend que les VUS ont pris la part du lion puis qu'ils ont laissé des miettes aux autres. Là.
C'est un peu ce qui arrive, c'est que dans ce créneau-là, le créneau des berlines intermédiaires, il y a deux actions. Il y a deux choses que les fabricants font. Soit ils laissent vieillir leur modèle en se disant « Bon, on va vendre ce qu'on va vendre puis on verra plus tard. » C'est un peu ce que la Passat vit en ce moment. Et à l'autre extrême, t'as, tu sais, Hyundai, Honda avec l'accord. Hyundai, c'est la Sonata. Il essaie des choses en se disant, on va un peu éclater le modèle, on va un peu revoir, tu sais, on va mettre un petit peu plus de oomph, puis je veux dire, on essaiera de gagner des parts de marché, même si le marché est réduit. Vous aurez compris en faisant l'analyse de ces deux phrases-là que la Passat n'en sort pas vraiment sort pas gagnante de cette situation.
Non, et on a beaucoup américanisé ce véhicule-là.
Exactement.
Qui d'ailleurs maintenant est fabriqué aux États-Unis. C'est à l'usine de Chattanooga.
Précisément. Et il y a quelques années d'ailleurs, on avait dit on va rapatrier une partie du design aux États-Unis pour satisfaire la clientèle américaine et
pan-américaine. Effectivement.
On veut dire états-unienne parce qu'évidemment, on n'a pas la même relation avec la marque Volkswagen au Québec surtout. Par rapport au reste du continent.
Non, nous, on aime le design européen ici, alors que les Américains ne l'aimaient pas. Et c'est pour ça que ce véhicule-là se vendait mal.
Exact. Cela dit, elle a des qualités, la Passat. C'est une berline extrêmement logeable et spacieuse. Il y a de la place pour 5 personnes sans aucun problème. Écoute, comportement est confortable. On s'entend que c'est pas une sportive, là, mais bon, il y a des aides à la conduite qui rendent la chose sécuritaire. C'est pas une mauvaise bagnole comme telle. Et c'est un prix pas désagréable non plus. Hein. Ça commence à 27 000 $. On peut aller jusqu'à 40 000 si on a le goût vraiment de se payer la traite. Mais le modèle intéressant est vraiment autour de 30 000 $ pour une berline de ce format-là, qui est relativement, je veux dire, assez polyvalente, on s'entend. Là. C'est un prix tout à fait raisonnable.
C'est grand, là, on s'entend. Là. C'est une grande voiture, la Passat. Là.
Non, exact. Puis, tu sais, même sous le capot, le 4 cylindres avec la boîte automatique à 6 rapports, c'est une combinaison qui est éprouvée, qui est même qui a des qualités. Là. Je veux dire, c'est une belle... C'est un beau groupe propulseur.
Oui.
Mais il commence à être un peu âgé. Tu sais, quand on voit ce qui se fait du côté, justement, on parlait de Hyundai et Honda, ils ont des voitures hybrides. Toyota, la Camry, qui est quand même pas mal non plus.
Puis tu sais, t'as un concept plus moderne, des moteurs plus récents.
Ça a beaucoup évolué.
Tu sais, t'es rendu avec des boîtes à 10 rapports du côté de chez Honda, alors qu'on est encore à 6 du côté de chez Volkswagen, effectivement.
Donc, on sent un petit peu l'âge rattraper la Passat. Et évidemment, tendance du moment... Tout se fait en quatre roues motrices maintenant, sauf quelques rares modèles, dont la Passat. Et c'est là aussi, c'est un problème, parce qu'avoir une Passat 4Motion, on aurait quelque chose d'assez intéressant. Ce qui n'est pas le cas. Par contre, on peut avoir une Altima quatre roues motrices qui va probablement aller chercher des parts de marché à cause de ce détail-là, ce qui rend un peu la Passat moins intéressante. Donc, si j'avais résumé la Passat en une phrase, je dirais c'est une berline confortable et polyvalente, virgule, mais point. Parce que c'est ça. C'est une bonne voiture, mais qui aurait été le fun, qui était le fun il y a 2-3 ans. Clairement, le segment a évolué. La Passat est restée un petit peu à l'arrière. Volkswagen se concentre, on le voit là, quand on va aller juste visiter le site web de Volkswagen, vous allez le voir, se concentre sur des nouveaux modèles qui s'en viennent, la ID4, la voiture électrique.
Exact.
Sur ses VUS passés et à venir. Mais laisse un peu la Passat de côté, puis ça paraît. Et évidemment, c'est difficile de ne pas recommander de faire la même chose.
Ben effectivement, en fait, on a laissé, je dirais, l'essentiel à ce modèle-là pour ne pas faire disparaître. Mm-hmm. Parce que, bon, il y a eu des Passat 4 roues motrices, il y a eu des Passat avec un 6 cylindres.
Ben la CC est une belle variante de la Passat, un modèle
voilà,
aussi.
Effectivement, qui est devenu un modèle en soi plus
exact.
Tard. Donc, on n'a pas lancé la serviette.
On aurait pu y mettre un peu plus d'énergie,
mais
ce qui n'est pas
effectivement, on aurait pu y mettre un petit peu plus d'énergie. Cela dit, je pense que le 4 cylindres fait le travail. Puis, si vous chaussez bien votre véhicule l'hiver, ça va faire le travail.
Oui, puis je veux dire, consommation d'essence autour des 8 litres au 100 pour une voiture qui est quand même assez grosse.
C'est
tout à fait respectable.
C'est intéressant. Ouais. Moi, de mon côté, on s'en va un petit peu ailleurs cette semaine.
On change de registre.
On change de registre. En fait, c'est un véhicule que j'avais vu, mais que je n'avais pas essayé. J'étais allé au lancement de la Mini John Cooper Works Clubman du côté de l'Europe il y a maintenant, ma foi, presque 2 ans. C'était à l'été 2018. Ça va vite, hein?
C'est ça.
C'était à l'été 2019, je pense.
Il y a deux étés.
Et on nous avait présenté la future Mini GP qui était là, mais qui était statique. Le modèle n'était pas prêt. C'était un pré-production ou même encore un prototype. Et là, ben finalement, c'est la semaine passée que j'ai eu l'occasion de l'essayer sur un circuit routier qui, je pense, est l'endroit de prédilection pour ce genre d'auto-là. C'est un petit bolide, là.
C'est pour Grand Prix, genre.
C'est pour Grand Prix.
Donc, ça donne une idée où ça va, cette voiture.
Ben voilà, on a eu des Grands Prix avant. Mais qui était avec un moteur 1.6 litres qui donnait 228 chevaux, qui était correct, mais on n'avait pas le oomph qu'on souhaite d'une vraie sportive. Là, BMW, qui est évidemment propriétaire de la marque Mini, a pris le moteur qu'on retrouve dans une... en fait, c'est le moteur 4 cylindres, 2 litres, qu'on trouve dans un X2, qu'on trouve dans la 135, qu'on trouve dans différents modèles. Qui est un 4 cylindres 2 litres turbo de 301 chevaux.
Oui, je voulais dire, qui est capable d'en prendre.
Qui a du nerf, là. Et dans la GP, ce qu'on a fait par rapport aux autres modèles, on a enlevé les sièges arrière, on a dégarni le véhicule qui fait seulement 1244 kilos par rapport à 1576, mettons, pour une Clubman. Donc, t'enlèves 300 kilos, c'est pas rien.
Ça
là.
Fait une différence.
Ça fait une joyeuse différence. Il y a des pneus dans le langage qu'on appelle des semi-slicks. Qui sont des pneus qui sont légaux pour la route, mais taillés pour la piste, là, qui vous donnent un rendement. Bon, là, évidemment, il faisait 4 degrés, il venait de pleuvoir toute la nuit, la piste était complètement détrempée et froide, étrempe. Donc, l'adhérence n'était pas au rendez-vous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a arrêté de pleuvoir tôt le matin. Et on a été capable, vers la fin de notre session, d'avoir un circuit presque sec. Puis les pneus commençaient à être réchauffés. Là, on a eu une meilleure idée du potentiel du véhicule. C'est très sportif, là. On a des freins de 360 mm à l'avant. On a un aileron qu'on appelle communément la corde à linge chez nous. Là, l'aileron arrière, qui est très, très proéminent, qui fait du travail très bon. Bon, évidemment, les pneus Hankook, c'est des pneus 18 pouces. On a pensé, réfléchi. Il y a un trapèze sur le véhicule pour la rigidification. On en a un derrière le siège du conducteur. Donc, c'est vraiment très solide. Et ce véhicule-là est capable de faire un 0-100 en 5 secondes.
Oh, quand même.
Et a roulé sous les 8 minutes au Nürburgring, là, qui est une référence dans le monde des circuits. Donc, c'est très rapide. Et comme c'est tout petit, c'est un go-kart. Bon, évidemment, on en a fait 3000 pour la planète. De ce nombre, il y en a 59 qui vont être vendus au Canada. En fait, il en reste, on m'a dit chez BMW, ben chez Mini, qu'il en reste quelques-uns à vendre. Ça, c'est pas beaucoup. Et dépêchez-vous, mais c'est 51
990 $. C'est-tu ça ou une WRX STI, par exemple? C'est-tu le même registre ou c'est complètement autre chose?
Moi, j'irais plutôt voir Civic type S,
okay.
Qui serait là, je dirais l'équivalent probablement dans la terme de puissance. T'en as 306. Les deux sont des tractions parce que c'est pas quatre roues motrices,
c'est une
traction.
Ah oui, c'est vrai.
Mais les deux tiennent très bien la route, mais c'est encore plus méchant parce que le poids, parce que la taille au niveau du GP. Et effectivement, je vois mon technicien qui me fait des signes. Oui, elle est 10 mm plus basse que les autres mini. Donc, vous avez une garde au sol qui est rabaissée par rapport aux autres modèles pour une meilleure tenue de route. Non, c'est vraiment pensé pour ça. Si vous avez 52 000 $ et un accès à un circuit routier, parce que c'est pas une mauvaise idée, parce que sur, je dirais qu'en conduite de tous les jours, c'est peut-être un petit peu dur, parce que c'est quelque chose qu'on, je dirais qu'après une heure là, au volant, là, bon, vous en avez assez, mais cela dit, c'est un véhicule qui est fort intéressant.
Il n'y a pas de banquette, il doit avoir de la place pour l'épicerie derrière.
Ben, en fait, oui, ou si vous avez quatre nœuds de rechange à amener pour une fin de semaine au circuit, ça va passer en arrière. Donc, ça, c'est intéressant. Il nous reste quelques minutes, Alain, je voulais parler rapidement, on va en parler un peu plus en détail la semaine prochaine, mais j'ai la Porsche Taycan cette semaine, j'ai un Maserati Le Vente et au circuit, j'ai aussi essayé la nouvelle série 4 de BMW, la 440.
Oui.
En fait, la 440 M Performance, qui est pas une M4.
C'est ça, c'est pas une M4, mais c'est
mais t'as 300, t'as 382 chevaux, pareil. Et honnêtement, je vois pas pourquoi t'aurais besoin de plus que ça. Parce qu'un circuit, la beauté, c'est que t'es capable de voir un peu ce que les véhicules ont dans le ventre, ce que tu peux pas faire baver, ce que tu peux faire sur les routes publiques.
Donc c'est plus approprié sur
à vos risques et périls, là, mais sur un circuit, c'est l'endroit pour le faire. C'est correct de le faire, puis c'est là qu'on est capable de voir. Et honnêtement, ça marche, là, ça marche solide. Et on a beaucoup retravaillé pour ramener des sensations qu'on avait un petit peu perdues avec l'embourgeoisement du modèle, qui était devenu plus lourd, qui était devenu, je dirais, peut-être un petit peu plus engourdi. Là, on a retravaillé la suspension, le tarage, on a recalibré au niveau du véhicule, la direction est même un petit peu plus vive, la direction est devenue un petit peu lourde, c'est tous des détails. Et bon, évidemment, la série 4 par rapport à la série 3 est la plus sportive des deux.
En principe, ouais.
Et bon, la fameuse calandre que tout le monde a...
J'allais dire, est-ce que t'es aussi laide en personne?
Non. Honnêtement, ouais. Là, bon, oui, c'est... Ça dérange quand t'as regardé, mais j'avoue que à la fin de la journée, là, bon, c'est correct. On s'y fait. Et la voiture est tellement intéressante à conduire. Bon, évidemment, c'est 67 000 $ et des prunes. C'est pas pour tout le monde. Mais si vous aimez le côté sportif, le côté nerveux d'un véhicule, c'est dans le haut de vos priorités. Allez voir une série 4 parce que c'est un modèle qui est extrêmement intéressant pour ceux qui recherchent ça. Mais il n'y a pas énormément d'espace, mais c'est pas là-dessus qu'on joue. On joue sur l'expérience de conduite, et je pense que BM là a été capable de corriger le tir parce que là les gens allaient plus vers une M2, une série 2 qui rappelait l'ancienne série 3, l'ancienne série 4, et là on a été capable de ramener dans un format qui est quand même plus grand, cette sensation qu'on avait un peu perdue. Je pense que c'est ce qu'on visait, parce que BMW a toujours vendu l'expérience au volant. C'est ce qui fait qu'on a vendu plusieurs autos. Donc ça, c'est un modèle intéressant. Alors voilà, ça nous résume un petit peu. La semaine prochaine, on va probablement commencer notre série sur les constructeurs automobiles avec GM.
Oui.
On va avoir d'autres essais routiers, Taycan, je vais avoir la...
On va y revenir.
Oui, la Maserati Levante.
Ce balado C23 vous a été présenté par le 98.5.
C23.